Le journal Bruno Duvic.
Bonjour à tous et merci de nous écouter sur France Inter. Au sommaire aujourd'hui, comment sauver une vie au téléphone? Vous entendrez l'intervention des pompiers du Nord qui ont guidé une femme. Son père faisait une crise cardiaque. Il va maintenant très bien. Le peuple grec peut à nouveau respirer. Propos du gouvernement à Athènes. Après un accord important cette nuit entre ministres européens, allègement à nouveau de la dette du pays. Il s'agit de lui permettre d'emprunter sur les marchés. Est-ce vraiment la sortie du tunnel? Nous verrons cela avec notre invitée, la correspondante à Paris de la télévision publique grecque. Messi, mais non, Lionel Messi et les Argentins à un orteil de l'élimination en Coupe du Monde de football. Nous irons à Buenos Aires entre larmes et colère. Aujourd'hui sur le terrain, un autre favori qui n'a pas bien commencé son mondial, le Brésil. Dans ce journal encore, vers des rendez-vous plus rapides, enfin chez l'ophtalmo. Pour gagner du temps, ils promettent de déléguer une partie de leur travail aux orthoptistes. Le taux de grévistes tombe très bas à la SNCF, moins de 10% ce matin selon la direction. Le congé parental en Europe, une déception de plus. Bruxelles avait de grandes ambitions, pas les États, pas la France. Les 28 choisissent la rémunération la plus basse. Cette dernière minute, le plus important réseau de trafic de stupéfiants de Marseille démantelé, annonce la police. Ça se passe à la Castellane, dans les quartiers nord. La météo, bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
Le temps est presque parfait, soleil mais pas de chaleur accablante.
Effectivement, alors du soleil presque partout, quelques averses sur l'extrême sud-est, peut-être un orage sur les Alpes du Sud, un ciel encombré, toujours près des Pyrénées avec quelques gouttes. Température, vous l'avez dit, un petit peu fraîche, 17 à 23 degrés au nord et 24 à 32 tout de même au sud.
On dit un mot du week-end, Elodie.
Très ensoleillé, un petit peu plus nuageux dans l'est pour dimanche avec des températures qui commenceront à remonter et ça continuera la semaine prochaine.
La suite du programme, ce sera les souvenirs d'un grand critique de théâtre dans la marche de l'histoire à 13h30. Vous êtes les bienvenus dans le journal de 13h. À l'heure où les services d'urgence sont critiqués pour leurs insuffisances ou leur manque de moyens, voici la preuve vivante, c'est le cas de le dire, qu'ils peuvent faire des miracles. Sans doute, pour répondre aux critiques, les pompiers du Nord ont publié sur Facebook le récit d'une intervention au téléphone. Une femme en pleurs, appelle, panique. Son père fait une crise cardiaque. Le pompier la guide au téléphone. Ensemble, ils vont sauver le père le temps que les secouristes arrivent sur place. Cécile Bidot a mélangé des extraits de l'intervention et des propos du pompier à froid, plongé au cœur de l'urgence.
Alors, vous avez pris votre papa, calmement.
Oui,
je vous fais un grand coup. Vous le mettez par terre, sur le dos. Vous le mettez torse nu.
Souvent, à l'intonation de la voix, on se rend compte assez rapidement que c'est grave. Donc là, on fait partir très vite les secours. On les a déclenchés au bout de 42 secondes. Et après, on essaye de faire au mieux pour que la personne se calme et puisse réaliser des gestes efficaces avant que les renforts interviennent.
Alors vous appuyez, allez, on appuie, on relâche, on appuie, on relâche.
On essaye de donner des conseils à distance.
Vous appuyez bien au milieu de la poitrine avec votre talon de la main. Vous n'arrêtez jamais le geste. Vous appuyez toujours, donc avec les deux mains. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6.
On a tous ici, au centre de traitement des appels, tous une expérience de terrain. La formation se fait en continu au sein du centre, mais notre expérience nous aide aussi à comprendre les gens et à leur donner les conseils. On est heureux d'avoir réussi quelque chose en équipe, avec les pompiers de Thumry, et puis l'opérateur, et surtout la dame qui a vraiment très bien réagi, qui a été attentive. Au début, elle était un peu stressée, puis après, elle s'est reprise en main, et puis grâce à elle, surtout, tout a pu s'enchaîner correctement pour la victime qui s'en est bien sortie aujourd'hui.
C'est bien, madame. Vous avez bien réagi, madame. C'est très bien. Bon courage, madame. Vous pouvez laisser les pompiers travailler.
Merci beaucoup.
Bon courage, madame. Merci. Vous avez été très forte.
Voilà, le pompier sauvé, le monsieur sauvé, pardon, vit à Monchaux. La scène date de décembre dernier. Les pompiers du SDIS 59 l'ont mise en ligne sur leur page Facebook hier. Voilà pour ce reportage de Cécile Bidot. À la SNCF, une nouvelle séquence de grève jusqu'à dimanche matin, mais le taux de grévistes est toujours plus bas. Moins de 10% ce matin. Cela décroche même chez les conducteurs. 38% de grévistes selon la direction. Les prévisions de circulation, 2 Transiliens sur 3, 3 TER sur 5, 3 Intercités sur 5. Presque tous les TGV 9 sur 10. Et puis à Nancy, la circulation des trains a repris. Il y avait une panne d'aiguillage ce matin. Comment réduire enfin les délais d'attente pour obtenir un rendez-vous chez l'ophtalmologiste? 3 mois d'attente en moyenne, ça peut être beaucoup plus. Il y a de fortes disparités selon les régions. Bonjour Véronique Julien.
Bonjour.
Les représentants des ophtalmos ont convoqué la presse ce matin pour annoncer une bonne nouvelle, en tout cas un espoir. Pour gagner du temps, ils vont de plus en plus déléguer une partie de leur travail aux orthoptistes.
Oui, ça se fait déjà depuis quelques années, mais la tendance s'accélère. Elle est très nette depuis 3 ans. En 2015, 30% des ophtalmos déléguaient une partie partie de la consultation. En 2018, c'est 60%. Ça a déjà permis de limiter les délais d'attente dans des cabinets débordés par la demande. Sinon, on serait sans doute déjà à 2 ans d'attente. Et ça va continuer. En 2025, 80% des ophtalmos devraient se faire aider. En gros, l'orthoptiste fait les tests visuels. L'ophtalmo n'arrive qu'après pour une lecture finale. À terme, sur des cas simples, l'orthoptiste pourra même procéder totalement seul et même à distance grâce à la télémédecine. Il transmettra ensuite ses données à un ophtalmo installé peut-être à des dizaines de kilomètres. Thierry Bourg préside le SNOF, le syndicat national des ophtalmologistes de France.
Les patients pourront prendre rendez-vous dans les maisons de santé, par exemple. Il y aura des créneaux prévus pour ça. Le patient sera examiné par l'orthoptiste. L'orthoptiste, lui, il va faire un interrogatoire, bien sûr, du patient. Il va faire une réfraction, prendre la tension oculaire, prendre des photos du fond d'œil. Et tout ça sera transféré par télétransmission, en fait, à l'ophtalmologiste qui, lui, va interpréter le dossier dans les 8 jours.
Et ça coûtera combien, ça ?
28 euros.
Mais les ophtalmos rappellent aussi que pour réduire les délais d'attente, il n'y a pas que l'organisation. Il faut aussi des professionnels. Pour bien faire, il faudrait chaque année former 240 ophtalmos au lieu de 150 et 500 orthoptistes au lieu de 400.
La mise en garde à propos de Santé publique France. Les enfants de moins de 5 ans sont les premières victimes des brûlures. Principal danger, les liquides comme l'eau du bain ou le thé. Voilà ce que dit ce matin Santé publique France. La mise en garde d'Airbus en cas de Brexit dur, si Londres sort de l'Europe sans accord, nous serons obligés, dit-on chez Airbus, de quitter la Grande-Bretagne. La firme européenne emploie 15 000 personnes de l'autre côté de la Manche. Et c'est vrai que l'histoire de l'Europe ces dernières années, c'est une succession de crises et de déchirures. Et bien dans un pays où l'Europe est née il y a très longtemps, où elle a failli mourir il y a très peu de temps, se dessine un petit espoir de sortie de crise. La Grèce, depuis 8 ans, d'un côté, elle encaisse la purge de l'austérité, de l'autre, elle est sous assistance financière. Un accord a été trouvé cette nuit entre ministres des Finances de la zone euro pour débrancher la perfusion sans que le pays ne retombe malade. À partir du 20 août, la Grèce pourra à nouveau emprunter sur les marchés financiers. L'accord de cette nuit vise à alléger une nouvelle fois la dette qui reste très importante. Il y a encore des mesures d'austérité. Sortie de crise fragile dans un pays où le mot Europe est devenu pour beaucoup de gens synonyme de punition. France Inter à Athènes, Angélique Kourounis.
Depuis ce matin, l'annonce de la sortie de crise faite dans la nuit par les créanciers passe en boucle avec en prime une bande-annonce qui tourne en permanence avec une phrase clé, maturation de 10 ans de la dette et tranche de 15 milliards versée prochainement. Le secrétaire général du Syriza, le parti de la gauche radicale au pouvoir, monte lui au créneau.
Je crois que cet accord va être amélioré dans les prochains jours pour le développement du pays. Et pour une croissance qui ne sera pas basée sur les salaires très bas et sur un marché du travail dérégulé.
Dans les rues, les Grecs sont, eux, suspicieux. Dimitri, 60 ans, commerçant, ne voit aucun changement.
Les mots vont changer. Mémorandum, Troïka. Maintenant, ils vont trouver d'autres mots, mais c'est la même chose, la même politique. Déjà, l'année prochaine, il va y avoir de nouvelles baisses dans les retraites et les salaires.
Grigoris, la trentaine, chômeur depuis 30 ans, préfère ironiser.
Nous sommes étiquetés comme un pays en crise. À partir du moment où on doit de l'argent à nos alliés, on est piégés. Ils en ont assez, ils nous ont pris sous leur protection et ils se comportent avec nous en conséquence.
En fait, les Grecs saluent cette annonce sans trop y croire. L'étroite surveillance du pays imposée jusqu'en 2057 et surtout l'impossibilité d'annuler une partie des mesures d'austérité votées même en cas de croissance limite toute effusion de joie. Athènes, Angélique Kourounis pour France Inter.
Alors, sortie de crise ou pas, pour en parler, l'invité de ce journal est Thomaïs Papayoannou. Bonjour.
Bonjour.
Correspondante à Paris de l'ERT, la télévision publique grecque et chypriote. Thomaïs Papayoannou, quand le porte-parole du gouvernement grec dit « Je pense que le peuple grec peut sourire et respirer à nouveau », il a raison ?
Non. Pas du tout. Et pourquoi ? Parce que finalement, rien ne va changer. C'est juste une date, mais le programme va au-delà de cette date, parce que on vient de voter 88 pré-propositions, ce sont des obligations avant de terminer ces mémorandums. Il faudra respecter jusqu'à 2022 certaines obligations par la Troïka.
Il y a encore de l'austérité jusqu'en 2022.
Minimum jusqu'à 2022. Oui. Hein, et il y a plusieurs lois qui vont s'appliquer pour faire respecter exactement les programmes, les 3 derniers programmes. Je vous donne juste un exemple qu'en janvier 2019, on va diminuer encore plus les retraites. Donc, il va avoir la 14e coupe dans les retraites et il va avoir encore une hausse des taxes en Grèce. Donc, voilà, rien en réalité n'échange dans la vie quotidienne des Grecs.
Il ne s'est rien passé hier soir ?
Si, il s'est passé qu'on a un petit peu commencé à négocier sur la question de la dette qui tourmente le pays et le gouvernement, bien sûr, parce que c'est une dette de 180%, c'est une énorme dette qui risque d'augmenter vertigineusement parce qu'on va sortir sur les marchés et les marchés vont décider quel est le taux d'intérêt qu'ils vont appliquer sur la Grèce, combien l'économie grecque vaut finalement. Donc ça risque de faire monter les emprunts grecs, donc on risque d'avoir des gros problèmes dans l'avenir. Donc, à cause d'un accord qui a été conclu hier soir, on peut limiter les dégâts.
Dans quel état est votre pays après 8 ans à la fois de perfusion financière et de mesures d'austérité ? Dans quel état est le pays ?
Alors, l'état, c'est mitigé. Hein. C'est pas catastrophique, mais c'est pas non plus la vie en rose. Et, question de bon côté, c'est que à cause de la Troïka, ou grâce à la Troïka, certains aspects de la vie grecque ont changé. Par exemple, l'immense corruption qui régnait dans le pays, elle a été vraiment circonscrite. Vraiment, elle est limitée. Et ça ne va pas dire qu'elle n'existe pas, mais elle est très limitée. Là, le droit a pris les dessus. Okay, ça, c'est la réalité. Il y a eu quelques réformes extrêmement nécessaires pour la survie du pays. Mais on n'est pas allé jusqu'au fond de ces réformes nécessaires. Par contre, on a fait exploser les taxes, parce que sous le prétexte que les Grecs ne payaient pas de taxes, maintenant, ils payent plus de 75% de leurs revenus globaux à l'État. Et on a coupé dans les retraites et dans les salaires tellement que non seulement la vie est tellement chère à cause des taxations, mais en même temps, les salaires ont chuté. Donc, il y a un problème de survie maintenant pour la population.
Quelle image les Grecs ont-ils de l'Europe ?
Aussi mitigé, parce que je vous dis, une partie de la population est reconnaissante qu'on ait mis un peu le ménage, qu'on ait fait les ménages, hein, parce qu'il a fallu le faire, les ménages. Mais de l'autre côté, les Grecs considèrent que les fameuses réformes n'étaient vraiment pas des vraies réformes, mais surtout augmenter les taxes et couper dans les salaires. Et ça passe très très mal, parce qu'ils ont l'impression que la grande majorité de la population paye pour les péchés de certains. Et on les connaît, ces certains, et ces certains-là ne payent toujours pas.
C'est qui, ces certains-là ?
Et c'est un système des oligarques et un système judiciaire qui ne fonctionne plus, qui est en panne, qui n'a pas été réformé. Il y a une collusion entre la classe politique grecque qui n'a pas été renouvelée du tout. Et on a toujours les mêmes familles plus ou moins qui règnent sur le pays. Par exemple, le leader de l'opposition du Parti de Nouvelle Démocratie est fils d'un ex-premier ministre grec. Mais ce n'est pas que lui, je ne l'accuse pas, il y a d'autres politiques aussi qui sont de la vieille garde. Et aussi, bien sûr, les médias qui n'ont pas su se renouveler. Toute cette caste n'a pas su se réformer.
Dernière question, Thomaïs Papayohannou, vous qui êtes correspondante à Paris de l'ERT, la télévision publique grecque, vous parliez de la classe politique. Tsipras est l'homme fort, toujours ou pas, ou plus ?
Il est toujours l'homme fort. Pourquoi ? Parce qu'il a une faible opposition qui est mêlée dans plein d'affaires, qui fait le pari très dangereux de s'allier ou de toucher l'extrême droite pour récupérer des votes de l'extrême droite. Donc Tsipras est réussi, grâce à cette mauvaise politique de l'opposition, est réussi à récupérer une grande partie de la population sous la promesse que vous allez voir, nous sommes les seuls garants que, malgré l'austérité chronique, on va prendre soin de vous. Les plus faibles vont avoir un espoir que leur quotidien s'améliorera. Nous sommes les seuls garants, les autres vont vous écraser.
Thomaïs Papayohannou, invité en entretien enregistré en milieu de matinée, à l'instant, le commentaire d'Alexis Tsipras à propos de l'accord de la nuit dernière. La décision de l'Eurogroupe est historique. Elle rend la dette grecque désormais viable. Allez, de Grèce, traversons la mer Égée pour aller en Turquie. Le dossier des migrants en Europe se joue en partie là. Élection présidentielle et législative dimanche au pays de Recep Tayyip Erdogan. Bonjour Géraldine Allot.
Bonjour.
Envoyé spécial de France Inter avec Clémence Bonfils. Beaucoup d'ambiance derrière vous. Il y a un invité surprise à la présidentielle de dimanche, c'est le suspense. Erdogan pourrait être contraint à un second tour par son principal adversaire, le social-démocrate Muharrem İnce. Du coup, il multiplie les meetings à l'approche du scrutin, 7 rien qu'aujourd'hui à Istanbul. Et c'est ce qu'on entend derrière vous, Géraldine. Vous assistez en ce moment même à un des meetings d'Erdogan dans le quartier Kartal, à l'est d'Istanbul.
Oui, et pour assister au premier meeting de cette journée marathon, il fallait être patient et ne pas craindre l'insolation sous le soleil brûlant d'Istanbul. Le président turc est arrivé avec plus d'une heure de retard. Perché sur un bus, il a fait un discours d'une demi-heure sur un ton battleur et populiste qui est sa marque de fabrique. Il a promis de poursuivre sa politique sociale généreuse. Il a promis de mettre l'accent sur l'éducation, la santé, la sécurité et l'économie. Un discours qui a conquis les nombreuses femmes ici présentes comme Chérifa et Bouchra avec leur drapeau orange à l'effigie de l'AKP. Elles font preuve d'un attachement viscéral, quasi irrationnel à Erdogan. Erdogan a toujours été du côté des opprimés et des innocents. Il a apporté énormément de choses à notre pays. Grâce à lui, nous avons des hôpitaux, nous avons des autoroutes. Depuis que je suis en âge de voter, j'ai toujours voté pour Erdogan. Ce qui est très important pour moi, c'est qu'Erdogan a permis aux femmes voilées de travailler tout en gardant leur voile. Ces militantes de l'AKP sont persuadées que Recep Tayyip Erdogan va remporter les élections dimanche. Mais les sondages, vous l'avez dit, prédisent un résultat très serré. Et d'ailleurs, le président turc va multiplier les meetings dans les prochaines heures, ce qui montre bien que pour lui, rien n'est gagné.
Les envoyés spéciaux de France Inter en direct d'Istanbul en Turquie, Clémence Bonfils et Géraldine Allo, merci à toutes les deux. Dimanche, le mini sommet sur les migrants en Europe, ce sera à Bruxelles. Il ne faut pas attendre de solution, dit d'ores et déjà le gouvernement allemand.
France Inter, le journal de 13h. Bruno Duvic.
À Marseille, 9 personnes écrouées et 8 placées sous contrôle judiciaire hier soir après une nouvelle descente de police cité de la Castellane dans les quartiers nord. Une opération qui avait mobilisé lundi 250 policiers et permis la saisie de 200 kilos de cannabis, 9 kalachnikovs, 30 000 euros en espèces. Selon la police, c'est le plus important réseau de trafic de stupes de Marseille qui a été démantelé. Écoutons Eric Arella, c'est le directeur interrégional de la police judiciaire.
Les services de police, de sécurité publique et de police judiciaire maintiennent une attention constante sur cette cité qui effectivement souvent est un haut lieu du trafic de stupéfiants. On assiste à des trafics organisés compte tenu de la physionomie de cette cité près d'axes autoroutiers. Et effectivement depuis 2013 on a procédé à de nombreux démantèlements de trafic organisé. Et entre 2013 et 2016, on a arrêté 100 trafiquants sur cette cité de la Castellane. On maintiendra une pression constante, et ce qui a permis notamment cette semaine de saisir 200 kilos de cannabis, près d'une dizaine d'armes, 30 000 euros, et notre détermination restera très forte.
Un propos recueilli par Olivier Martoc. Manuel Valls doit pousser un ouf de soulagement. La plainte pour fraude électorale déposée par son adversaire après son élection dans l'Essonne en juin 2017. Cette plainte est classée sans suite. Se passer de l'herbicide glyphosate en 3 ans, c'est l'engagement du président de la République. Oui, mais... comment? Voilà l'une des photos politiques du jour. Stéphane Travert, le ministre de l'Agriculture, et Nicolas Hulot, ministre de l'Écologie, côte à côte ce matin. Ils sont souvent présentés comme adversaires au sein du gouvernement. Ils ont réuni ce matin tous les acteurs du dossier. Message, le rassemblement.
Nous devons entendre les attentes sociétales sur ces sujets. Cette mobilisation de tous, elle est absolument indispensable parce que l'évolution des pratiques ne peut pas se faire ni contre les agriculteurs, mais elle ne peut pas se faire sans eux non plus.
Quel changement ? Quel changement en l'espace de quelques mois entre parfois des propos, des appréciations divergentes et l'unité de ton et de volonté qui ont été probablement la marque de cette réunion.
Propos recueillis par Rosalie Lafarge. À part les discours, pas beaucoup d'annonces concrètes ce matin, si ce n'est la création d'un centre de ressources d'ici à la fin de l'année pour rassembler les solutions alternatives au glyphosate pour les agriculteurs. Autre photo politique de la matinée, non, Marion Maréchal Le Pen n'a pas arrêté la politique. Elle inaugure aujourd'hui une école de sciences politiques qu'elle dirigera à Lyon. Marc Potvin, vous êtes sur place.
Marion Maréchal est en retrait de la politique électorale, elle l'a rappelé ce matin, elle n'a pas renoncé à mener la bataille des idées, bataille culturelle comme elle l'appelle, autour des 4 piliers de son école, excellence, éthique, engagement et enracinement.
L'enracinement qui est une valeur forte, c'est-à-dire qu'on peut être un responsable politique, d'ailleurs, ou économique, qui est parfaitement au fait des grands enjeux géopolitiques du monde. On fait beaucoup de géopolitique dans l'école, mais c'est pas parce que on est au fait de cela et qu'on a même des ambitions de développement mondial qu'on n'a pas besoin d'être enraciné sur une terre et un territoire et de ne pas tenir compte aussi des intérêts de ses compatriotes et de son territoire.
Les professeurs seront chargés d'incarner les valeurs de l'école. D'après Marion Maréchal, 120 enseignants ont postulé de manière spontanée. Le recrutement n'est pas terminé et l'ancienne députée le jure. Dans l'absolu, elle n'est pas contre des profs de gauche à l'ICEP.
Oui, ce serait possible. Bien sûr, puisque le critère de recrutement des professeurs ne tient pas évidemment au bulletin qu'ils mettent dans l'urne, mais tient à leur adhésion au projet pédagogique.
Choisir les enseignants, c'est la tâche du conseil scientifique où siègent certaines personnalités marquées à droite. Le président de ce conseil est secrétaire général du Mouvement pour la France de Philippe de Villiers. L'ICEP se donne pour ambition de former les prochaines élites du pays, au programme notamment un cours pour réussir dans un débat. Lyon, Marc Potvin, France Inter.
À propos de débat, sachez que les journalistes de Libération rue 89 ou C8 n'ont pas été autorisés à assister à l'inauguration de cette école. Quand les personnes qui ont vécu à l'époque des 30 Glorieuses racontent qu'on était embauché en un clin d'œil et en CDI, eh bien ces personnes parlent quasiment de l'époque des dinosaures. Si la plupart des salariés installés sont en CDI en France, la règle, chaque année un peu plus, c'est d'être d'abord embauché en CDD et des contrats de plus en plus courts. Bonjour Laurent Kramer.
Bonjour Bruno.
De plus en plus de CDD, de plus en plus courts. Une étude, Laurent, montre l'évolution sur 25 ans.
Et ces chiffres donnent le vertige. En 25 ans, le nombre de personnes travaillant en CDD a été multiplié selon la DARES par 4, avec très souvent aujourd'hui des contrats d'une seule journée. Et donc ce constat, un tiers de ces CDD signés en 2017 n'a duré en réalité qu'un seul jour. Transformation des demandes chez les employeurs essentiellement. Dans les services, la santé avec le secteur médico-social où le personnel est épuisé, où les arrêts maladie sont très fréquents. Ces secteurs ont vu le recours en CDD exploser ces 20 dernières années, alors que dans le même temps, l'industrie ou la construction ont, elles, sur la même période, largement diminuer leur demande en CDD. Dernier clivage enfin sur les contrats courts, le statut dans l'entreprise et CDD ne touche en réalité quasiment pas les cadres embauchés à 80 ou 90% en CDI et cela tout secteur d'activité confondu, alors que dans le secteur tertiaire, un employé sur deux et un ouvrier sur deux travaillent aujourd'hui uniquement avec des CDD de moins d'un mois.
Voilà pour cette étude menée par la DARES, hein, les statisticiens du ministère du Travail. Une profession est en train de crever au nom d'une réforme. C'était ce matin sur France Inter, le cri d'alarme du dessinateur Johann Sfar. Il relaye l'inquiétude des auteurs français face à un bouleversement redouté de leur régime social et fiscal, hausse de la CSG et réforme du régime social des auteurs. Vous pouvez le réécouter, c'était dans l'émission d'Augustin Trapenard Boomerang. Bonjour Delphine Simon.
Bonjour.
La chronique Europe chaque vendredi dans le journal de 13h. Aujourd'hui, les questions du congé parental qui ne sera pas amélioré, Delphine. Hier, les ministres des Affaires sociales se sont prononcés sur un projet de directive européenne. C'était plutôt généreux au départ, mais la France a largement contribué à revoir les ambitions à la baisse.
Oui, au départ, le texte est ambitieux. La Commission propose un congé parental d'au moins 4 mois pour chacun des parents. Il peut être pris en une ou plusieurs fois jusqu'aux 12 ans de l'enfant, rémunéré au moins autant qu'un congé maladie. En France, ça représente 50% du salaire initial, un montant moyen de 950 euros par mois. À l'arrivée, le compromis adopté par les 28 gouvernements prévoit que chaque pays reste libre de fixer le montant de cette rémunération. Bref, une application à la carte.
Pourquoi cette volte-face ?
Eh bien, pour Paris, l'enjeu est, il est principalement financier. Les parents en congé parental sont indemnisés en France par la CAF à certaines conditions et ce n'est pas lié à leur salaire. Du coup, le texte européen allait plus loin, mais il était aussi plus coûteux. 1,6 milliard d'euros potentiellement explosifs pour Emmanuel Macron, qui a aussitôt douché les espoirs de ses partisans. La France n'était d'ailleurs pas la seule à bloquer. L'Allemagne, l'Autriche ou la Pologne ont eu peur de l'addition, alors que l'Espagne et le Portugal soutiennent le texte. Bref, une occasion manquée, estime Karima Delli, députée européenne du groupe des Verts.
On sait très bien que si ces congés sont payés des clopinettes, personne ne les prendra. Et c'est ça le véritable scandale. On ne regarde pas les avantages du congé parental. Une meilleure répartition des responsabilités familiales, le père qui peut s'occuper des enfants, ce qui permet à la maman de retravailler tranquillement. Et donc là, on a plus d'égalité homme-femme, il y a moins de discrimination à l'embauche, il y a plus d'égalité salariale. On voit bien que Emmanuel Macron, qui s'était engagé durant sa campagne, il y a les paroles, il y a les actes. Et quand on passe aux actes, il n'y a plus personne.
Les eurodéputés n'ont d'ailleurs pas dit leur dernier mot car le Parlement européen est co-législateur et il compte bien remettre le sujet sur le tapis en juillet.
Alors cela dit, Delphine Simon, favoriser l'accès des femmes au marché du travail, c'était bien une promesse de campagne d'Emmanuel Macron.
Oui, c'est vrai, pendant la campagne, Emmanuel Macron avait promis la création d'un congé maternité universel. Puis, une fois élu, il avait érigé l'égalité homme-femme en grande cause de son quinquennat. En France, seuls 4% des pères prennent un congé parental contre 25% en Allemagne et 45% en Islande. Des pays où il est mieux rémunéré. Ce congé parental fait partie du socle européen des droits sociaux, cette fameuse Europe sociale que défend Emmanuel Macron. Elle a été réaffirmée à Göteborg en novembre dernier. Dire une chose à Bruxelles et une autre de retour à Paris, voilà qui ne risque pas, Bruno, de réconcilier les citoyens avec l'Europe à moins d'un an des élections européennes.
Merci Delphine Simon. L'Europe encore qui riposte aux taxes américaines sur l'acier et l'aluminium. Des dizaines de produits, jeans, bourbon, tabac, riz, motos sont davantage taxés depuis la nuit dernière par l'Europe, des produits fabriqués aux États-Unis. Un signe de plus de la détente qui se prolonge dans la péninsule coréenne. La Corée du Nord et la Corée du Sud conviennent de la reprise des réunions des familles séparées par la guerre de Corée. Ce devrait être en août prochain. Allez, comme chaque jour, la page de ce journal de 13h consacrée à la Coupe du Monde de football. Tenu en échec par la Suisse dimanche, le Brésil dispute son deuxième match. C'est face au Costa Rica dans un peu plus d'une demi-heure à 14h. On verra si la cheville de Neymar est vraiment remise du coup qu'il a ralenti ces derniers jours. En tout cas, il est bien aligné comme prévu contre le Costa Rica. Le favori le plus en difficulté de ce début de mondial, c'est l'Argentine, à deux doigts de l'élimination. Le pays de Maradona et du pape François aura bien besoin de la main de Dieu dans les jours à venir. Hier, ils ont perdu 3-0 face à la Croatie. Sur le terrain, les stars argentines, Messi en tête, ont été étouffés par des Croates très talentueux et agressifs. Dans les tribunes, il y avait un Maradona effondré et très loin de son poids de forme. Sur le banc de touche, l'entraîneur Sampaoli, tatoué jusqu'aux oreilles, oreilles qui ont dû siffler tant la bronca au pays est énorme. France Inter à Buenos Aires, Caroline Vic.
La mine dépitée, les Argentins, déçus et tristes, n'auraient jamais imaginé être éliminé à ce stade de la compétition. Mais pour eux, l'équipe argentine n'a pas été à la hauteur. C'est le cas de Maria.
Il manque l'esprit du petit club, la boue, se salir le maillot, se jeter au sol et qu'ils oublient un peu qu'ils sont des stars. Les joueurs ne sont connectés ni à leur pays, ni aux Argentins, ni entre eux. Non, c'est fichu. Pour moi, c'est fini.
Après ce match honteux et déplorable selon les Argentins, beaucoup ont remis en cause l'entraîneur Sampaoli pour ses mauvaises décisions, le gardien de but Caballero pour ses erreurs, mais aussi Lionel Messi pour son manque de tempérament. Mais Germán le défend.
Il a beaucoup de pression, il veut tout prendre en charge. Mais il y a 10 joueurs derrière lui qui devraient faire en sorte que Messi soit libre, qui devraient lui faire une bonne passe. Messi ne peut pas jouer tout seul contre 11 joueurs.
Malgré tout, Paola, elle, y croit.
La société argentine attend beaucoup de la Coupe du Monde. Et je crois qu'on a encore des chances. Je ne sais pas pourquoi, mais je continue à avoir ce bête espoir.
Tout dépend maintenant du match Islande-Nigeria aujourd'hui et de la prochaine rencontre mardi prochain entre le Nigeria et l'Argentine, avec derrière elle un pays qui se trouve déjà au bord du drame national.
Et au passage, tout cela intéresse la France de près, puisqu'elle rencontrera en huitième de finale le premier ou le deuxième de ce groupe D, celui de l'Argentine. La France qualifiée depuis hier pour les huitièmes après avoir battu le Pérou 1-0. Le programme des matchs aujourd'hui au Mondial, c'est donc Brésil-Costa Rica à 14h, Nigeria-Islande 17h et Serbie-Suisse à 20h. Voilà pour le foot. Le programme sport du week-end en trois questions. Combien les Bleus du rugby vont-ils prendre demain face à la Nouvelle-Zélande? Troisième test match du printemps. Une fille va-t-elle diriger les garçons en tennis? Amélie Mauresmo, favorite pour diriger l'équipe de France masculine de Coupe Davis. Ce devrait être tranché ce week-end. Et puis quelle ferveur sur le circuit du Castellet pour le Grand Prix de France. La Formule 1 fait son retour dans l'Hexagone après 10 ans d'absence et sous le beau temps.
La météo avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, créateur de machines expresso à dose fabriquées en France, à retrouver sur malongo.com.
De belles heures en perspective, Elodie Calac.
Pas plus de 18 degrés à Lille et Saint-Brieuc, 20 degrés à Strasbourg, 22 à Paris, Angoulême et Auxerre, encore 26 degrés à Bordeaux, 27 à Grenoble, 31 à Perpignan et 32 du côté de Toulon. On profite du soleil sur la plupart des régions, quelques passages nuageux sans conséquence entre l'Alsace et Champagne-Ardenne. Près des Pyrénées, là, ça reste bien encombré avec quelques gouttes possibles. Et puis vers l'extrême sud-est, on attend quelques averses, parfois de l'orage sur les Alpes du Sud. On n'oublie pas le vent, il est fort dans le sud-est, jusqu'à 90 km à l'heure en vallée du Rhône. Sur les régions du nord, un petit vent de nord à nord-est assez désagréable qui accentue un peu la sensation de fraîcheur. Le week-end s'annonce très ensoleillé, plus nuageux dans l'est dimanche avec une moyenne de 23 degrés au nord et de 28 au sud.
Casting du journal de 13h cette semaine à la technique, il y avait Loïc Frapsos, Tristan Gratalon et Michel Bézikian, à la rédaction en chef Anaïs Feugat et Lionel Thompson. Merci également à Guillaume Béraud, à Maurice Bochet, Sylvain Lesage et Sébastien Donat. 13h30, la marche de l'histoire.